Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Saulière et c'est l'épisode 27 de ITcast du 26 février 2016. Aujourd'hui, je reçois Arnaud et Stanislas et on va discuter de deux principaux sujets. Le premier concerne la conférence RSA qui a lieu à San Francisco à partir de lundi 29 février. Et à cette occasion, Microsoft vient de publier quelques annonces qui concernent principalement la sécurité, le cloud et l'entreprise. Dans une deuxième partie, on va aborder un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est les appareils mobiles. À l'occasion de la Mobile World Congress qui a eu lieu à Barcelone cette semaine, on va parler un petit peu des nouveaux modèles de tablettes, de PC, mais aussi et surtout de téléphones, avec notamment ce fameux HP Elite X3, qui est très intéressant et très surprenant. Donc, tout de suite, parlons un petit peu sécurité avec les annonces pré-conférence RSA. Je suis donc en ligne avec Stanislas et Arnaud. Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
Bonjour Arnaud.
Salut tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va très bien. Oui.
Donc c'est la fin de semaine, on enregistre ça jeudi soir, jeudi 25 février. Il y a deux événements qui font un petit peu l'actualité ces jours-ci. Donc il y a un événement qui se termine, le Mobile World Congress à Barcelone. Et puis il y a un événement qui va commencer lundi 29, à savoir la RSA Conférence, qui se passe, si je ne m'abuse, à San Francisco, aux États-Unis.
D'Amérique, tout à fait.
D'Amérique, sur le thème de la sécurité en général. Donc on va commencer par cet événement qui va venir, donc la RSA, avec un article qui est publié ce soir même et qui annonce un petit peu en avance par rapport à la conférence, certaines annonces, certaines nouveautés qui concernent, alors qu'il y a deux grands thèmes, hein, Stanislas, tu me corriges si je me trompe, il y a deux grands thèmes généraux et principaux dans ce volet d'annonces. Il y a d'une part l'aspect entreprise, on focalise beaucoup sur l'aspect sécurité de l'entreprise, et puis l'aspect cloud évidemment, avec cette sécurité d'entreprise, mais associée à tout ce qui est innovation dans le cloud, dans Azure, mais aussi dans Office 365.
Exactement, on est vraiment sur cette partie d'un côté sécurisation de la plateforme, et puis la deuxième qui est vraiment l'intelligence du traitement de la data de sécurité, qu'on pourrait appeler, sécurité intelligente ou intelligence sur la sécurité des données collectées, pour faire simple.
Voilà, donc il y a la première annonce sur la plateforme concerne un rachat qu'on a fait en fait récemment, qui avait été annoncé par Satya en novembre dernier, d'une société qui s'appelle Adalom, qui est un broker de sécurité, un cloud Access Security Broker, CASB, manifestement c'est quelque chose, cet acronyme. Et en fait, si j'ai bien compris, hein, l'objet de des produits que vendait Adalom et qu'on a racheté, donc c'est des produits qui permettaient de faire de la surveillance, du contrôle, de la visibilité, etc. sur des solutions de type SaaS, par exemple Box, Salesforce, ServiceNow, Ariba, mais évidemment aussi Office 365. Donc d'aller contrôler des choses du genre l'usage que font les gens du partage de fichiers, par exemple, dans Office 365, etc. Stanislas, est-ce que tu en sais plus sur ce rachat
sur Adalom?
Oui. Et comment on va l'intégrer? Je crois qu'on l'intègre principalement à Office 365.
Ouais, on va dire qu'aujourd'hui Adalom, en fait, c'était vraiment une solution qui est axée sur la gouvernance et donc la sécurité pour les clouds. Tu l'as dit toi-même, hein, Cloud Access Security Broker, c'est vraiment c'était le métier de Adalom à l'origine. Mm. En fait, Adalom je parle au passé parce qu'il va y avoir probablement des changements suite à la réintégration des équipes et des technologies, mais ça fonctionnait avec des applications cloud type SaaS, genre Salesforce, Box, Dropbox, ServiceNow, Office 365. Et c'était vraiment en fait une solution de security as a service, si on peut dire, quoi. Ça fait encore SaaS, donc c'est mauvais comme acronyme, mais c'est un peu l'idée quand même. Et ça venait compléter, en fait, et ça va compléter, en fait, l'offre, ce qu'on met déjà disponible dans Office 365 et ce qu'on met dans EMS. Donc, tu sais, dans EMS, on avait déjà mis des choses avec un produit qui s'appelle ATA, que Arnaud connaît bien.
Oui.
Advanced Threat Analytics. Et on va dire que Adalom vient vraiment compléter finalement tout ça, mais plutôt orienté effectivement cloud et plutôt orienté SaaS, alors que les solutions telles que par exemple Atta sont une solution très on-premise, enfin très sur site, dédiée à de l'infrastructure et moins à du software as a service, quoi, si je peux me permettre. Donc en gros, si on regardait avant ce qu'avait Adalom comme portfolio entre guillemets de solutions, c'était vraiment des solutions qui étaient axées sur donc les fournisseurs de SaaS, et ça permettait en fait de déployer des applications et puis d'avoir un certain contrôle dessus sur par exemple les utilisateurs privilégiés, les fuites de données un peu sensibles sur des périphériques non managés. Ça, c'est une problématique qu'on connaît tous parce qu'on en parle tous les jours quasiment. C'était de gérer également tout ce qui était un petit peu DLP, donc partage d'informations confidentielles, ou exfiltration de data suite à des APT par exemple, enfin, ou une compromission de compte SaaS par exemple. Et puis également des violations de règles de compliance ou de réglementaires, quoi. En gros, ça, c'était première, c'est ce qu'ils appelaient Adalom for SaaS, c'était leur solution. Je pense que c'est vraiment une partie de ces technos qu'on va réinjecter dans le cadre d'Office 365. C'est totalement cohérent, en tout cas, c'est-à-dire savoir qui sont les utilisateurs privilégiés, savoir quelles sont les données sensibles qui ont été copiées ou leakées sur des périphériques non managés, et puis également tout ce qui est fuite de données et partage d'informations confidentielles ou taguées comme confidentielles. Ça va bien avec pas mal de choses qu'on a pu faire déjà ou qu'on est en train de préparer, que ce soit sur Windows 10 avec EDP, hein, ou avec des choses comme ADRMS, Azure ADRMS, où il y a déjà des fonctionnalités assez similaires. Et puis ils avaient également une autre solution qui s'appelait Adalom for IaaS, qui en fait permettait de contrôler, on va dire, l'usage de manière administrative de la console d'administration, où ça permettait également de monitorer les appels sur les API d'administration, sur le reporting. Ça faisait également du reporting et de l'audit en fait sur tout ce qui était activité sur une plateforme de IaaS. Donc en fait, ils avaient historiquement dans leur solution deux produits, deux plateformes de IaaS. Bien entendu, ils avaient les deux majoritaires du marché, hein, c'est-à-dire AWS et Azure. Et donc ça permettait également leur solution de faire un contrôle, une sorte de contrôle d'accès avec des règles des politiques de contrôle d'accès en fait, qui permettaient en fait de faire des règles en fonction des utilisateurs, des périphériques et de leur localisation pour accéder à cette plateforme de IaaS. Mm-hmm. Donc tu vois, vraiment, c'est des choses qu'on n'a pas forcément à tous nos niveaux dans nos services de cloud à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends le cas par exemple de la console d'administration d'Azure. À partir du moment où tu as les credentials pour y accéder, voir le téléphone si tu fais une authentification forte, il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme permettant de contrôler très finement le contrôle des API qu'on va faire dessus, depuis quel périphérique, etc., etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais on ne va pas jusqu'à cette finesse-là de contrôle aujourd'hui dans l'accès aux consoles. Donc ça, c'est ce qui vendait en fait Adalom. Donc on comprend tout à fait effectivement que ces solutions ont une pertinence pour améliorer notre plateforme, tout simplement.
D'accord.
Et au-delà de ça, ils avaient une troisième offre Adalom qui s'appelait Adalom for Custom Apps, et qui permettait en fait de faire de la gouvernance et de la protection de données en fait sur des applications entre guillemets maison, si je peux me permettre. Et ça permettait en gros de sur une application déployée sur un cloud privé ou public, hein, donc Azure, AWS, je sais pas, Rackspace, et ça permettait cette solution en fait de faire de l'audit, de la traçabilité, de surveiller certains utilisateurs et leur activité au sein de l'application. Ça permettait également de faire du contrôle d'accès relativement granulaire, là encore basé sur l'utilisateur, le périphérique ou la localisation, et ça permettait également de faire tout ce qui était chiffrement et contrôle de data leak prevention DLP. Donc on est vraiment sur une boîte en fait qui était vraiment orientée sur des solutions de sécurité des clouds, quels qu'ils soient, hein, sur site comme public, hein, IaaS comme SaaS. Et comme PaaS, parce qu'en fait, leur dernière offre du portfolio permettait également de se greffer sur des applications métiers, entre guillemets.
Donc si je regarde ce qu'on a annoncé, a priori, on annonce des choses sur la partie SaaS, et qui s'appellerait donc Microsoft Cloud App Security.
Voilà.
Qui sera generally available, donc disponible en avril 2016.
Donc ça doit correspondre effectivement à l'intégration de la première brique de leur portfolio, qui concernait déjà qui permettait déjà d'enrichir en fait à l'origine Office 365. Sauf que là, effectivement, je pense que ça c'est déjà quasiment prêt à être repackagé en changeant les logos ou en utilisant de nouveaux services. Et c'est logique effectivement que ce soit les premiers qui viennent se greffer dans la suite de nos produits.
Donc évidemment, on applique ça à Office 365, mais aussi on conserve le fait de gérer ou de faire de la gouvernance également sur des services comme Box, Salesforce, ServiceNow et Ariba.
Et ça paraît un peu logique, hein, parce que si on regarde par exemple Salesforce, on a signé des accords avec eux en termes d'intégration Salesforce Office 365. Box, à ma connaissance, il y a également une intégration assez bien faite de Box avec Office 365 et avec Azure Active Directory. Donc du coup, ça, on se ferme pas tout de suite. Après, il n'est pas impossible que c'est un service lié à des services tiers très concurrents, soit peut-être mis un peu de côté, mais ça, c'est la vie, quoi.
Donc, on a également quelques améliorations supplémentaires sur la sécurité au niveau de Office 365, qui sont liées à Cloud App Security, dont notamment la possibilité de définir des alertes sur des comportements suspects, etc., sur Office 365. Sur la découverte également d'applications Office 365 que les utilisateurs utiliseraient, de façon à pouvoir approuver ou non l'utilisation par ces utilisateurs d'applications tierces utilisant la plateforme Office 365. Donc tout ceci également sous le chapeau de Cloud App Security. Alors, est-ce que ça vient également de Adalom?
Bah, ça y ressemble pas mal en tout cas. Peut-être qu'on avait commencé à développer en interne ces fonctionnalités. Mais si tu regardes en fait certaines de ces fonctionnalités, tout ce qui est suivi de l'activité des utilisateurs et puis également contrôle des accès plus ou moins granulaires, ça ressemble quand même beaucoup à Adalom. Néanmoins, il n'est pas impossible que c'était effectivement déjà en cours de création chez nous et qu'en fait après bah, ça sera une intégration d'une partie des équipes d'Adalom et puis de leur expérience, leur connaissance sur le sujet qui va enrichir simplement l'offre. Je pense que derrière également, quand on parle de l'administration et puis du contrôle de l'activité suspicieuse du service, ça doit faire également appel à pas mal de machine learning derrière en termes de comportement et de différentes phases d'exploration des données par exemple qui sont plus ou moins légitimes ou pas en fonction des personnes. Je pense que ça doit se faire également par du machine learning, ça, à mon avis.
Donc toujours dans la galaxie Office, on a l'extension d'un système qui s'appelait la Lockbox. Alors la Lockbox, c'est pas un produit, c'est un processus ou un workflow qui consiste lorsque un ingénieur du support Microsoft a besoin sur des actions de troubleshooting particulières d'accéder à des données d'un client, notamment c'était le cas sur Exchange jusqu'à maintenant. On mettait dans la boucle systématiquement le client avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on prévenait le client en disant « Attention, pour faire telle action de troubleshooting, on a besoin d'accéder à une boîte aux lettres ou à vos données. Est-ce que vous êtes d'accord ?»
Et ça, on le comprend hein, dans plein de contextes. Hein. Imaginons que ce soit la boîte qui a un problème sur la boîte aux lettres d'un directeur d'une organisation dans la finance, par exemple. Peut-être que l'ingénieur support, en déverrouillant la boîte ou en faisant le dépannage, peut lire des informations qui sont censées être tout à fait confidentielles et que ça pourrait poser un problème. D'où la nécessité de pouvoir effectivement demander l'accord avant au client de pouvoir regarder entre guillemets dans ces données, dans un but de troubleshooter, mais dans tous les cas, ça fait un moment un accès sur les données.
Donc on avait annoncé cette fonctionnalité-là, ce principe-là pour Exchange en décembre dernier. Là, on annonce qu'à partir du mois d'avril, on va commencer à mettre en place ce même procédé pour SharePoint Online et OneDrive for Business. Donc s'il y a besoin pour des actions de troubleshooting qu'un ingénieur de support accède à certaines données sur ses supports, sur ses stockages, à ce moment-là, le client sera dans la boucle.
Voilà. Donc là, on est vraiment sur une optique de plus de transparence et d'un contrôle, on va dire, enrichi pour les clients finaux vis-à-vis de leurs données.
Ensuite, Azure Security Center.
Alors, cher Arnaud, tu brûles d'en parler car c'est un petit peu ton dada.
Ouais, Azure Security Center, c'est un truc qui est assez cool en fait, que c'est un super beau dashboard sur ce qui est en train de se passer sur un déploiement Azure. Donc, globalement, tu vas définir une policy pour un environnement et tu dis voilà, mon environnement devrait être protégé, je devrais avoir mes machines qui sont à jour, tous les patchs qui sont installés, un antivirus qui soit OK. Et puis en gros le Security Center va t'offrir un beau dashboard, un beau reporting de est-ce que c'est compliant, est-ce que c'est OK par rapport à ce que tu as défini. Avec des jolis graphiques qui vont te dire voilà, sur toutes tes VM, tu as X% qui sont OK, pas OK, qui doivent être améliorés, des résultats directement exploitables, c'est-à-dire que tu sais que c'est directement telle et telle machine sur laquelle tu dois aller faire une opération. Donc ça inclut des informations, on va dire, à différents niveaux. Ça peut être au niveau du réseau, au niveau de la machine et au niveau de l'application. Un exemple assez pragmatique, j'en ai cité quelques-uns au niveau de la machine, un exemple assez pragmatique au niveau des applications, c'est par exemple, on va dire, tu publies le port 80 sur une VM qui est située dans Azure, il va te dire, ouais, ok, tu as fait du publication du port 80, c'est bien, mais nous, de toute façon, on s'arrête au niveau 4 pour la publication, donc si tu veux inspecter un peu plus en profondeur ce qui est en train de se passer au niveau de ton environnement, on va te recommander d'installer un application firewall, donc une chose qui sait aller inspecter jusqu'au niveau 7. Donc par défaut, en fait, on publiait, jusque-là, on te disait, tu peux installer par au-dessus de ton environnement un Barracuda ou un F5 qui permet de publier de manière sécurisée ton environnement. Donc ça permettait en fait de faire un déploiement facile parce que via les environnements classiques d'Azure pour compléter ton déploiement. Donc une des annonces qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé deux nouveaux partenariats dans l'écosystème ici. Donc un des éditeurs majeurs qu'on va intégrer, c'est une boîte qui s'appelle Imperva et qui a effectivement de l'intelligence sur la publication et sur l'intelligence niveau 7 quand on publie des choses sur Internet. Il y en aura quelques d'autres qui vont suivre aussi, hein, sans trahir de secret, tous les, de toute façon, tous les leaders du domaine de publication et de l'ADC sont appelés à être présents sur la plateforme. Donc pas de secret que Cisco, Fortinet, Checkpoint devraient suivre dans ce domaine-là. Il n'y a aucun secret qui est trahi, évidemment. Ça devrait arriver du coup dans les jours qui viennent. Ouais. Au niveau de l'intégration, j'ai parlé de quelques éléments sur les machines virtuelles, des éléments assez basiques somme toute, mais là ce qu'on va ajouter dans les semaines qui viennent, c'est globalement des choses assez intéressantes. Premièrement, c'est l'analyse des crash dumps des machines virtuelles. Parce qu'en fait, quand tu as une machine qui fait un blue screen, qui part en échec, on a remarqué que dans un certain nombre de cas, ça pouvait être dû à du malware qui était mal codé, du malware en fait qui était dans le mode kernel et qui provoquait un crash au niveau de la machine. Donc il y a un certain nombre de choses et d'éléments communs qu'on sait analyser du coup dans l'empreinte mémoire de la machine, dans l'empreinte du memory dump, pour détecter que en fait c'est un malware qui est en train d'essayer de faire le compte ma machine. Donc du coup, ce que va faire Azure Security Center, c'est qu'il a la possibilité d'aller analyser la mémoire et puis de dire, là, ta machine, il y a quand même pas mal de chances qu'elles sont en train de se faire verrouiller. Donc, fais gaffe un petit peu à ce qui se passe. Et puis, quelques autres protections assez rigolotes et intéressantes. On va rajouter aussi une protection contre le brute force. Donc, tu sais qu'il y a une protection contre le brute force RDP qui existe sur les machines que tu publies. Et on va rajouter une protection contre le brute force SSH. Alors, si jamais il y a encore des gens qui font du SSH avec un mot de passe, au lieu d'une clé publique, une clé privée, on va analyser et on va quand même empêcher ces attaques par brute force.
Je crois que j'en ai des machines Linux qui tournent avec des mots de passe sur. Bon, c'est pour la démonstration, donc c'est pas très grave, mais je crois que j'en ai.
On est en 2016, hein, je crois.
Oui, tout à fait, on est en 2016, Arnaud, mais tu sais, des fois, quand tu veux déployer rapidement une machine, tu fais au plus vite, en fait, et puis la force de l'habitude de Windows fait que, effectivement, j'ai pris du login mot de passe. Mais j'ai quand même un mot de passe complexe, donc du coup, je reste encore assez serein. Au passage, à ma connaissance.
Quand même trois fois l'AKB Microsoft. Hein.
Ouais, par contre, à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu, moi, dans mon Security Center, qui actuellement ressemble un peu à un arbre de Noël, parce que j'avais pas patché toutes mes machines, j'avais pas tout fait tout très bien. Donc là, j'ai un petit peu toutes les couleurs. Je crois que le Security Center actuellement n'analyse pas les configurations Linux. Je pense que ça devrait pas tarder, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un agent qui s'installe sur les machines Windows. Et qui remonte, effectivement, comme tu l'as dit, les patchs manquants et la présence ou pas d'antivirus et le besoin ou pas de redémarrer si, par exemple, des patchs ont été installés et qu'il n'y a pas eu le reboot.
Yeah, alors j'ai mentionné tout à l'heure qu'on crée des stratégies de sécurité en fait, et que le Azure Security Center il nous permet de vérifier la conformité avec ces stratégies de sécurité. Avant on les définissait au niveau de l'abonnement, ces stratégies de sécurité. Maintenant une des nouveautés c'est qu'on va pouvoir le définir au niveau d'un ressource groupe, donc permettre de suivre un petit peu plus finement par rapport à différents types de ressources qu'on publie effectivement la sécurité, parce que tout n'est pas valable dans tous les cas.
Ouais. Mais j'ai remarqué au passage, je sais pas si c'est nouveau, parce que je me rappelle pas, peut-être toi tu l'as utilisé avant moi, que pour chacune des machines, en fait, on a un état avec plusieurs colonnes avec des petits points de couleur, hein, vert, orange, rouge ou bleu, juste sous la petite information. Et donc, il y a effectivement la colonne onboarding qui dit si la machine démarre ou pas, il y a celle qui dit si tes mises à jour sont installées ou manquantes ou pas. Pareil, la présence ou pas d'un anti-malware ou la présence ou pas d'une baseline qui a respecté ce que tu expliquais avec les security policy. Et il y a une autre colonne, en fait, qui est disk encryption. Tu sais qu'on a Azure Drive Encryption qui est actuellement encore en preview, hein, où l'objectif est de pouvoir chiffrer les disques durs des machines virtuelles Windows ou Linux. Et visiblement, ben, le Security Center, je ne sais pas si la colonne est nouvelle, moi je l'ai vu qu'aujourd'hui, en fait, permet de savoir si effectivement cette machine-là a des disques qui sont chiffrés ou pas. C'était le petit point de la maison.
On parle
tout à fait remarquable.
On parle d'un nouveau dashboard de Power BI, ça concerne également Security Center.
Tu peux aller voir les data effectivement dans Power BI. Maintenant, moi j'aime tout à fait ça dans l'interface graphique d'Azure.
Ouais, l'interface graphique d'Azure elle est vraiment super. Non, elle est propre, hein. Franchement j'aime beaucoup. Mais on a rajouté effectivement ce petit bouton, donc si vous avez un compte Power BI, le petit bouton vous amène directement sur les données que vous pouvez retraiter à votre façon si le dashboard ne vous plaît pas. Franchement, le dashboard, autant des fois je suis un peu critique, autant là il est quand même assez visuel. Un peu trop rouge dans mon cas pour l'instant, mais assez visuel.
Ensuite, il y a quelques petites nouveautés au niveau de OMS.
Oh, OMS, autre produit tout à fait excitant. OMS, hein, vous le savez, c'est en fait le meilleur ami de System Center. En fait, ça peut être quelque chose qui vient complémenter le monitoring que tu peux avoir déjà avec Operation Manager, ou ça peut être quelque chose que tu installes complètement, de manière complètement indépendante pour monitorer tes applications et tes serveurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse apporter comme ça de manière continue un peu de l'innovation dans ces solutions de monitoring. Et donc, effectivement, on voit que de mois en mois, on vient compléter la solution. On avait introduit il y a quelques mois une possibilité de voir un petit peu quelques bonnes pratiques sur l'état de ton Active Directory, par exemple. On en vient d'ajouter ici un petit composant qui permet de vérifier l'état de la réplication maintenant d'Active Directory. Donc, en plus de l'état, on va dire, général, vérification de l'état en temps réel de la santé de la réplication. Donc, on ajoute ces petits composants-là, et puis on a plein de composants en matière de sécurité qui viennent s'ajouter. Alors, on a des choses relatives à, par exemple, ce qui se passe sur le réseau. Donc, on peut analyser ce qui est en train de se passer sur tes serveurs, et puis dire... C'est bizarre, mais tu as beaucoup de machines, on a remarqué, qui discutaient avec des adresses IP. Et puis, on a remarqué que ces adresses IP, c'est quand même typiquement des adresses IP de botnet. Hein, parce que, avec notre Security Center de Microsoft, on a une vision quand même assez importante et on monitor les adresses IP qui sont connues pour être malicieuses. Donc, en fait, on va savoir maintenant te reporter ces informations-là. Tes serveurs sont en train de discuter avec des adresses IP qui sont connues pour être malicieuses. Et puis en plus, on va t'offrir un joli dashboard avec une vision graphique des endroits géographiques où en fait tes machines sont en train de discuter. Donc tu peux dire, voilà, j'ai du trafic qui est en train d'être drainé à une destination qui n'est pas du tout ma zone de business et qui n'est pas du tout là où j'attends d'avoir des utilisateurs. Donc des petits trucs comme ça, c'est bête à dire, hein, mais quand c'est visuel en matière de sécurité, plus c'est simple à comprendre et puis plus on peut être efficace et prendre des actions du coup rapidement sur les problématiques qui se passent. Donc, nouveau dashboard, je l'ai dit, le trafic qui est surveillé pour l'intelligence sur les menaces, la supervision des menaces classiques. On va un petit peu plus loin également dans OMS maintenant, sur la supervision des antivirus. Bon, en gros, on savait bien monitorer Defender, hein, l'antivirus de défaut de Windows, mais on ne savait pas forcément analyser l'état du reste, y compris de nos propres produits, hein, de System Center Endpoint Protection. Et donc, du coup, on apporte ce support là dans l'environnement. Voilà parmi les quelques nouveautés de OMS qui s'enrichit de ces compléments en matière de sécurité.
C'est pas une autre nouveauté parce qu'elle a juste quelques semaines, mais c'est que désormais on essaie de faire en sorte, ça c'est vraiment la vision future, d'avoir autant de remontées d'informations et d'intelligence sur le traitement de l'information des machines Linux que des machines Windows. Donc on a un agent aujourd'hui OMS pour Linux qui s'est déjà collecté pas mal d'informations, et dans le cadre de la sécurité, du coup, l'idée c'est de pouvoir collecter tout ce qui est authentification et autorisation et d'être capable de remonter là aussi des alertes sur ces machines-là et de les remonter donc du coup dans la console OMS et de pouvoir les traiter, parce que dans le log analytics, en fait, la partie log analytics, et notamment donc on remonte tout ce qui est bien entendu syslog, enfin rsyslog et syslogng pour être précis. Et on est capable également de s'interconnecter avec des solutions, on va dire, de management ou de supervision existantes, comme je crois c'est Zabbix, si je ne dis pas de bêtises, et puis Nagios, plus connu. Donc ça peut être intéressant également d'y jeter un petit tour là-dessus.
Ouais, alors on effectivement, c'est partie des annonces qu'on allait annoncer quelque chose, ça. Donc sur Linux, effectivement, on annonce qu'il va y avoir des choses qu'on va annoncer, et on annonce aussi qu'on va annoncer des choses relatives à l'intégration dans OMS de ATA et puis du Office Advanced Threat Protection aussi. Donc c'est pour dire, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de faire des trucs, et on vous annoncera qu'on va annoncer des trucs. Donc ça, c'est pour les domaines additionnels qui sont prévus dans la roadmap, en fait.
Ok, puisqu'on parle de Linux, je crois, Stan, qu'on n'a pas précisé que Red Hat bénéficie maintenant d'un modèle de machine virtuelle prête à l'emploi dans le marketplace d'Azure.
Oui, c'est exact. En fin d'année, on avait annoncé les accords et le support de Red Hat dans Azure. Mais dans un premier temps, effectivement, ça voulait dire que un client qui avait déjà des machines virtuelles et un contrat avec Red Hat pouvait créer son modèle de machine virtuelle ou sa machine virtuelle sur son Hyper-V et pouvait télécharger le VHD et instancier une nouvelle VM dans Azure. Mmh. On n'avait pas encore de modèle dans la galerie, on ne pouvait pas taper dans le marketplace Red Hat et puis obtenir directement une image prête à l'emploi et prête au déploiement. Donc c'est déjà le cas désormais avec les deux versions de Red Hat. Alors je ne sais plus quelle version, la 6.7 je crois et la 7.2 si je ne dis pas de bêtises. De Red Hat Server. Ouais.
Donc, alors, je crois que par contre, on n'est que en mode Bring Your Own License, hein, il me semble, de mémoire, hein, pour Red Hat, non ?
Ouais. En fait, le système s'installe, mais fonctionnellement, d'après ce que j'ai compris, il faut mettre la petite clé si tu veux aller plus loin. C'est-à-dire que là, de base, tu n'as pas grand-chose, en fait. Mais là encore, je ne suis pas un expert Red Hat, donc je n'ai pas trop gratté le sujet. J'en ai instancié une ou deux pour voir, mais je ne suis pas allé voir dedans après
en fait, ce qui s'active ou pas. En fait, ouais, pour être plus précis, en fait, il faut que tu mettes ta souscription Red Hat, en fait, ton abonnement Red Hat. Tu as des petites commandes comme ça quand tu instancies ta machine Red Hat pour avoir les full features. Tu dois mettre ton abonnement, donc ton email, ton mot de passe. Et puis du coup, ça va activer la Total Moule Frite, quoi. Mais sinon, t'as juste en fait une version basique du produit, quoi.
D'accord. Mais pour les clients Red Hat, les entreprises qui sont clientes de Red Hat, il y a zéro problème, ils ont tout ce qu'il faut.
Exactement.
Ouais, c'est magnifique. C'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps.
Mm-hmm. Oui, en fait, Red Hat est très 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 employé dans le monde de l'entreprise, parce qu'effectivement, ils assurent un service entre guillemets dit d'entreprise ou professionnel avec le support derrière, le consulting, etc., etc. Et la couche applicative qui est au-dessus, hein, parce que Red Hat c'est pas que le système d'exploitation, hein, ils ont pas mal de solutions. Notamment CloudForms, hein, qui est une solution d'orchestration multi-cloud intégrant également Azure. Donc effectivement, là, c'était en tout cas demandé par beaucoup de clients, soit des clients chez nous, chez Microsoft, qui avaient également du Red Hat, soit chez Red Hat, par leurs propres clients, qui disaient « bah oui, c'est bien, mais on aimerait bien que ce soit dans Azure ». Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps à se régler, c'était pas un problème technique, hein, parce qu'on avait CentOS qui était déjà opérationnel depuis déjà pas mal de temps sur Azure. C'était plus après un accord entre deux organisations commerciales, probablement, je pense, à mon avis, en termes de licensing, etc., etc. Mais c'est fait, ça y est, ça a pris du temps, mais ça y est, on l'a.
Ouais, c'est un peu trompeur parce qu'en fait, si tu regardes dans le portail, hein, ils vont te dire c'est du pay as you go premium image. Ouais. Mais il te faut quand même une souscription chez Radat aussi, hein, d'après ce que je vois. Donc,
Il y a du pay as you go, mais si tu veux payer deux fois, ça nous arrange.
C'est peut-être du pay as you go, mais dans le cadre d'un contrat.
Voilà, tout à fait.
Mais le titre peut être un petit peu trompeur si on a l'habitude des termes azuriens.
D'accord. Exactement, parce qu'en PSU Go, tu peux avoir des appliances complètes qui fonctionnent en PSU Go, c'est-à-dire au timing, etc.
Et t'as pas besoin d'un abonnement spécial, ouais.
Ouais.
D'accord. Bon, bah, faisons chez Red Hat comme chez Red Hat.
Voilà.
ok, donc est-ce qu'on a fait le tour des annonces qu'on connaît aujourd'hui et de ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur la RSA conférence?
Je pense. Écoute, ma foi, je pense qu'on a fait un beau petit tour. Hein.
C'est... Voilà.
Je rappelle peut-être que le Security Center est encore en preview, hein, à ma connaissance.
Ouais, il l'est.
Et il est donc accessible uniquement dans le nouveau portail, hein, bien entendu, qui est le portail actuel, le portail de production, et non plus le portail classique, le bleu pour ceux qui voient ce dont je parle.
Il y a beaucoup trop de couleurs dans le Security Center pour l'ancien portail.
Oh, par contre, Arnaud, moi j'ai installé je suis sur EMS et je suis embêté parce que dans mon pack d'intelligence AD Replication Status, là, j'ai pas d'erreur en fait. Donc c'est peut-être bien.
Bah, mais... Ça veut dire que ça réplique bien, Stanislas.
Ben oui, il me dit 0 serveur destination server with errors. Et puis il me dit 3 serveurs de destination sans erreur. Donc du coup, en fait, j'ai pas trop d'informations parce que tout va bien.
Bon, du coup, tu te fais un petit repadmin/repl-sum, et puis comme ça, tu es vraiment, vraiment sûr que ça réplique bien.
Merci Arnaud pour cette petite commande.
Sinon, je me permets de te recommander aussi un petit utilitaire qui s'appelle AD Replication Status, qui est un utilitaire fait par des anciens collègues premier field engineer, qui est pas trop mal du tout. C'est une interface graphique pour en fait repadmin, pour ceux qui n'aiment pas le repadmin en mode ligne de commande.
Et on mettra les liens dans l'article du podcast.
Oui, pour la caisse à outs de l'admin AD.
Pour la culture Active Directory qui n'est jamais assez... On n'insiste jamais assez là-dessus. À propos d'Azure Security Center, je reviens là-dessus. Je voudrais juste préciser que j'ai publié avec Jean-Yves Grasset une petite vidéo de, je ne sais plus, 20 ou 25 minutes sur Azure Security Center, donc une démonstration de Jean-Yves.
Écran publicitaire qui s'est glissé là, mon petit Stanislas.
J'en ai bien l'impression.
C'est,
en plus.
C'est carrément un écran publicitaire, j'ai même pas honte.
C'est Concrètement TV, c'est ça qui vient de se greffer dans l'ITcast.
Exactement, pour Concrètement. Donc c'est aka.ms/concrètement. Et regardez l'épisode 10 sur Azure Security Center. Et d'ailleurs, je peux parler également de l'épisode 11 sur ATA. Avec le célèbre Arnaud Lheureux.
Très bel épisode, il me semble, de même.
Arnaud Lheureux de MVA TV, c'est ça?
De MVA TV.
D'accord.
Donc, voilà.
Magnifique.
Alors, bon, si on passait sur un sujet un petit peu plus léger que la sécurité...
Si on passait à quelque chose de très léger.
Que, tu sais, on est une entreprise de cloud et de mobile. On a fait le cloud.
Et on va faire le mobile. Et donc, à ce fameux événement annuel de Barcelone, le World Mobile Congress, il y a eu pas mal d'annonces de devices, de nouveaux appareils qui font tourner Windows 10, alors que ce soit Windows 10 mobile pour des téléphones, et puis Windows 10 quoi, pour le desktop, sur des tablettes et portables. Donc, j'ai recueilli quelques trucs. Alors, je dois avouer, puisqu'il faut toujours citer ses sources, que je suis parti d'un article de Paul Surot, qui a bien listé pas mal de devices avec des belles photos et tout ça. Et puis, également, une page Sway. Un Sway, donc, je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait, et qui présente également les nouveautés qui ont été annoncées autour des appareils tournant sous Windows 10, et qui est pas mal fichu également, donc on mettra les adresses également. Donc, je vais commencer à l'envers de l'article en question dont je parlais de Paul Surot, là, en partant des PC... avec un PC Lenovo qui est le Yoga 510 et le Yoga 710. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, la gamme Yoga chez Lenovo, c'est vous savez, c'est ceux qui se plient jusqu'à se plier à l'envers complètement.
Ce qui se plie et qui casse, c'est une surface, c'est ça.
Ce qui se plie et qui casse, c'est pas des yogas.
Mais pourquoi on le met à l'envers, Pascal, pour le laver ou...
Eh ben, il faudra poser la question à ceux qui en ont.
Désolé.
Donc voilà. Alors, une chose à noter à propos des yogas. Alors, pourquoi j'en parle ? C'est parce que déjà, d'une part, on peut remarquer qu'ils ont un look qui se rapproche de plus en plus de la concurrence. C'est quand même terrible. Il y a de plus en plus de laptops très légers, PC, qui ressemblent de plus en plus à des MacBook Air. Enfin, c'est assez clair. Mais c'est assez bien réussi. Et puis d'autre part, chez Lenovo, donc ils ont deux modèles un petit peu professionnels. Donc il y a le Yoga, donc celui qui se plie vers l'arrière, qui garde une dalle touch. Donc vous pourrez faire du touch comme sur une tablette. Et puis il y a le X en carbone, donc ceux qu'on a nous comme machine de travail.
Mmh. Et le prochain
qui est une très bonne machine. Par contre, le prochain modèle de X en carbone ne sera pas touch. Il n'y aura plus de version touch du X en carbone.
Ah, Pascal, donc... je vois que tu étais impliqué dans l'ingénierie du produit.
Exactement. Étant quelqu'un qui ne touche pas mon écran de PC, pour moi, ça me va très bien.
Bah, alors, moi, pour avoir connu les générations 1 et être actuellement sur la génération 3 du X en carbone, j'ai adoré la génération 1 où l'écran était mat et légèrement rugueux au niveau de la texture qu'on peut avoir sur l'écran en termes de toucher. Donc le doigt a vraiment glissé dessus sans s'accrocher, entre guillemets. Oui, exactement, Arnaud, sans s'accrocher. Sur le Gen 3, ils sont passés sur une dalle brillante et beaucoup plus lisse. Hein, et j'avoue que l'expérience... Et enfin, en ce qui me concerne, et là c'est très personnel, beaucoup moins agréable déjà parce que mon écran est toujours à l'air dégueulasse. Encore plus quand je suis à côté de l'écran à Pascal qui lui est immaculé vu qu'il ne met pas les doigts dessus.
Ah, il est
et effectivement, comme il est plus lisse, il a tendance en plus à accrocher le doigt. C'est un petit peu dommage, j'avoue. Par contre, étant quelqu'un pas forcément fan des transformables ou des tablettes pour travailler, j'avoue quand même avoir tendance à passer mon doigt sur l'écran pour scroller dans des PDF ou sur Internet. Mmh. D'où du coup mon écran qui est plutôt sale. Quoi.
Donc dans quelques années, tu auras plutôt un Yoga qu'un X en carbone, peut-être.
Là encore, oui. Le X en carbone, honnêtement, j'adore vraiment le form factor et la qualité. Je suis un vieux de la vieille sur ces types d'appareils. C'est-à-dire ex-ThinkPad d'IBM. Je trouve vraiment que c'est soviétique, c'est sobre comme design. Mais ça fait le job, quoi. Ça fait très bien le job.
La charnière est solide, ça compte.
Ouais.
Et
Les connecteurs d'alimentation sont bien propres aussi, sont bien assez gros. L'écran n'a pas des bords trop lourds.
Changeant à chaque génération.
Oui,
vieille tradition du monde du laptop. Hein.
Exactement. Bon, en même temps, je pense que sur tous les équipements, même chez Apple, ils ont tendance à changer les prises aussi. Mais pour le reste, puis voilà, puis moi étant également un utilisateur du trackpoint, vous savez, ce petit bitonio rouge au centre du clavier que peu de gens utilisent, j'adore utiliser ce truc-là en fait. Je suis pas très fan des trackpads en général, à part celui du Mac, je dois l'avouer. Et le trackpoint, c'est vraiment, je trouve, une spécificité du ThinkPad, Lenovo ou IBM, que je trouve absolument génial. Donc je pense que je resterai encore sur du X en carbone, même s'il perd la dalle tactile, parfois il faut savoir perdre des choses.
Parce que le Yoga n'a pas le petit trackpoint rouge au milieu, effectivement.
Ouais, c'est pas que je pense que c'est vraiment un truc très très culturel pour les plus vieux d'entre nous, ce trackpoint. Je le dis sans problème parce que vraiment moi je suis un très très grand fan de ce truc là et je suis hyper à l'aise avec en fait. Je le connais depuis que ça a été conçu, que ça existait sur les premiers ThinkPad. J'ai toujours trouvé que c'était une invention absolument géniale d'IBM. Voilà, c'était mon petit point, j'aime IBM.
Bon, donc ensuite il y a toute une série de tablettes sous Windows 10 qui ont été annoncées, dont une qui est assez surprenante qui s'appelle Samsung Galaxy Tab Pro S. Alors ce qui est surprenant, c'est pas le form factor, hein, ils sont tous un petit peu, ça tourne autour de la surface en plus ou moins simple comme design. Il y a des claviers qui ressemblent à des pochettes qui se plient par-dessus la tablette, enfin c'est tout un petit peu le même principe. Mais ce qui est étonnant dans ce modèle-là, c'est que ça s'appelle un Samsung Galaxy. Ils ont repris la marque de leur célèbre marque d'appareil Android pour une tablette Windows 10. Donc c'est assez surprenant. Avec un support du stylo sur une tablette de 12 pouces, une dizaine d'heures d'autonomie. Bon. Il y a également pas mal d'appareils dits durcis, qui sont assez, toujours assez surprenants, notamment chez Panasonic, où ils ont sorti un modèle 2 en 1, donc avec la tablette quoi, qui s'en fiche sur un connecteur en haut d'un clavier pour faire un laptop, mais en mode militaire, quoi, le mode durci. Toujours assez surprenant, ces designs un petit peu rudes.
Le mode militaire, c'est le mode kaki, Pascal. Hein. C'est pas forcément le mode durci.
Donc ça, c'est un Panasonic Toughbook CF20 qui est assez surprenant. Il y a encore une tablette Lenovo MIX 310, une tablette de 10 pouces classique avec un clavier détachable, pas très original. Un Huawei qui en fait une aussi qui s'appelle le Matebook avec un clavier qui ressemble un petit peu à une pochette qui se plie, qui se déplie, etc. Il y en a une qui est assez surprenante de tablette, c'est une marque qui s'appelle Getac, le RX10. Alors c'est une tablette qui est durcie également, donc qui est costaud avec une grosse poignée sur le dessus. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est faite pour le milieu médical, donc les hôpitaux, etc. Et donc une particularité, c'est que le touch fonctionne avec des gants. Donc si les gens ont des gants. On je sais pas quelle matière, c'est du latex ou...
Ah, ça, c'est la tablette des proctologues.
Et ben ça marche aussi. Donc l'histoire ne dit pas effectivement comment on va enlever les bactéries sur la chose. Parce que quand même, dans ces milieux-là, il faut quand même pas déconner. Et donc voilà. Il y a un lecteur de code barre aussi sur le côté. C'est assez étonnant comme machine. Comment?
Oui, c'est très bon ça.
Alcatel aussi a fait une tablette 2 en 1.
Ah, quand même.
Tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est Alcatel, quoi. C'est surprenant.
Oui.
Donc dans toutes ces tablettes, il y en a qui ont des très hautes résolutions, comme qui ressemblent à des écrans Retina, un petit peu comme la Surface. Il y a d'autres qui ont des résolutions plus normales. Franchement, après mon expérience de cette semaine avec la Surface et de la projection sur un projecteur qui projette en 1024x768 et les allers-retours entre les deux résolutions, franchement, je préfère avoir un écran qui n'est pas très haute résolution pour éviter tous les bugs d'allers-retours de résolution. Ouais. Franchement.
Ça, le problème, c'est que tu vois, tous les PC portables ont évolué les 2-3 dernières années avec des super hautes résolutions, effectivement. Et effectivement, au-delà des problématiques du système en tant que tel, c'est effectivement qu'on projette, on a toujours des salles de projection avec des écrans qui datent effectivement de la résolution 1024x768, quoi. Donc du coup,
Ouais, mais ça, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais quand le système ne retombe pas sur ses pattes en revenant à la résolution d'origine, c'est plutôt gênant. Donc bon, quand ça s'améliorera, ben ça, tant mieux. Pour l'instant, c'est pas encore très au point, quoi. Il faut encore faire quelques petites manips pour retomber dans une configuration normale. Après coup, ça se passe surtout au niveau du zoom qu'on applique aux caractères et aux éléments de l'interface graphique. Je ne sais plus comment on appelle cette caractéristique, ce paramètre.
Le DPI, c'est ça,
non ? Ouais, le DPI, c'est la densité des pixels. Et puis on applique un zoom, alors on affiche soit 100%, soit 150% en fonction de... Par exemple, si on a un très haut DPI, donc une très forte densité, on va grossir, les caractères. Par exemple, une police de 12 points, on va l'afficher plus grosse en nombre de pixels qu'on l'afficherait sur un écran de très basse résolution. Donc après...
sujet.
Ouais, vaste sujet, ouais. Donc après toutes ces tablettes, il y a pas mal de téléphones également sous Windows 10 mobile qui ont été annoncés. Et c'est quelque chose d'assez
nouveau.
Nouveau et intéressant, et voilà, ça donne de l'espoir à la plateforme, c'est plutôt pas mal. Il y a Sony notamment qui a fait un Vaio, enfin je sais pas si c'est toujours Sony Vaio.
Ah non, Vaio ça a été vendu l'année dernière ou il y a 2 ans, et donc c'est une boîte à part en fait.
C'est Vaio donc qui en fait un, qui s'appelle le Phone Biz. Qui est tout à fait classique, un 5,5 pouces, avec 3 gigas de RAM, donc c'est bon, 3 gigas de RAM en 2016, c'est quand même pas terrible, hein. Maintenant on fait des téléphones plutôt avec 4 gigas de RAM.
Ça c'est utile quand t'as pas mal d'applications en fait chargées sur le téléphone, donc sur Android effectivement on commence à avoir des téléphones qui ont un petit peu plus, dans les 4, dans les un peu les haut de gamme, Mais bon, sur Windows Phone 3, ça devrait suffire, je pense. Les applications sont mieux optimisées.
Ensuite, il y en a un qui est très original, qui s'appelle le Trinity Nuance Neo. Alors, il est original juste dans son design, parce qu'il a un dos qui est en deux tons bicolores, et on peut être...
Crocodile.
Crocodile bois.
Désolé.
Par exemple, bambou crocodile, par exemple, pour faire plaisir à Arnaud.
ça serait original, ça, le bambou crocodile.
Ouais. Mm. Ouais. Aucun crocodile n'a été blessé dans l'enregistrement de ce podcast. Et voilà, avec des dos interchangeables. Donc voilà sa particularité, quoi. Mais par contre, il est petit, c'est un 5 pouces. Donc il faut aimer les petits téléphones de 5 pouces.
Moi, j'aime bien, moi, les petits téléphones de 5 pouces.
Voilà, donc c'est pour Stan. Mais par contre, 2 Go de RAM, t'irais pas loin avec ça. Et 16 Go de stockage. Par contre, un bon téléphone à 13 mégas. Un bon appareil photo, pardon, à 13 mégapixels.
Tu prends deux photos, ton appareil est plein.
Alors Panasonic, fidèle à sa tablette, a fait aussi un gros téléphone bien, j'allais dire rugueux, parce que le mot anglais c'est ruggedized, durci, donc qui a une tête de téléphone durci, quoi, c'est-à-dire pas très beau mais solide. Il s'appelle le
ruggedized Stan.
Panasonic.
On va la noter celle-là.
Toughpad FZF1. Donc, bah oui, sur les chantiers, il vaut mieux avoir ça qu'un petit iPhone tout fragile.
Il vaut mieux avoir un casque aussi.
Mais au moins, celui-là, il se pliera pas dans la poche de son utilisateur.
Il pliera l'utilisateur, mais lui ne bougera pas.
L'utilisateur pliera avant.
Et enfin, Alcatel, qui a fait un petit téléphone également, qui s'appelle Alcatel Fierce XL. Qui est sous Windows 10 mobile aussi, avec 2 Go de RAM, un petit processeur qui est moyen, mais bon, l'intérêt c'est qu'il est pas cher. Pour $140, vous avez un Windows 10 mobile Alcatel. Sur la photo, il est bleu, alors je ne sais pas si c'est la seule couleur disponible, mais il ressemble à certains modèles de Lumia qui avaient une coque bleue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Alcatel revient avec des Windows mobile, Windows 10 mobile. Il y avait évidemment également le Lumia 650 qui a été montré, démontré sur le stand de Microsoft sur place là-bas. Donc le 650, il est plutôt sympa parce qu'il a un look, c'est assez étonnant parce qu'il est censé représenter le milieu de gamme de type entreprise, avec le haut de gamme étant le 950 et puis le bas de gamme étant le 550. 550 très peu cher, 650 milieu de gamme et puis 950 le plus cher. Par contre, quand on le regarde, le 650 a quand même une finition extérieure qui est nettement mieux que celle du 950. C'est assez surprenant, avec son bord métallique, il fait quand même un peu plus classe que la coque toute plastique du 950. Mais bon.
C'est du plastique noble.
C'est du plastique noble.
Ce n'est pas du plastique, c'est du polycarbonate.
Ok.
C'est le nom noble du plastique.
Ok.
Pascal, est-ce que tu as prévu de nous parler des petite rumeur concernant Windows 10 mobile?
Non, mais je veux d'abord finir avec le dernier modèle de téléphone dont je n'ai pas parlé encore, qui est le HP Elite X3. Il vaut bien quand même de passer quelques instants dessus, parce que le HP Elite X3...
Pas facile à dire.
Ouais, ça doit être un truc à prononcer par des Américains. Il est très 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 surprenant ce modèle de téléphone. Donc c'est HP qui fait un Windows 10 mobile. Les caractéristiques du téléphone lui-même sont très, très correctes. Donc c'est un 6 pouces, c'est un gros téléphone 6 pouces, donc tu ne vas pas du tout aimer, Stan. Uh-huh. Avec un écran très high DPI, de 2560 sur 1440. Donc une très haute résolution de l'écran sur un 6 pouces. 6 pouces, c'est la taille de l'ancien 1520 de Lumia, hein. Je crois qu'il a 4 gigas de RAM, oui c'est ça, 64 gigas de stockage avec une extension micro SD possible, jusqu'à 2 Tera de stockage possible. Donc c'est pas n'importe quoi comme téléphone. Et en fait, HP dit qu'ils ont construit ce téléphone suite à la demande de leurs utilisateurs de leur fournir un appareil qui servirait à tout, à téléphoner et à travailler, mais également à accéder aux applications existantes chez les clients, dans les entreprises. Sous-entendu, toutes les applications Windows disponibles, par exemple, via des interfaces RDP ou Citrix, etc., etc. Et donc, ils ont poussé à fond le modèle qu'on propose avec Windows 10 Mobile, qui est le modèle Continuum. Hein, vous savez qu'on on fournit, nous, avec, par exemple, le 950,
un petit doc,
voilà.
On le fournit moyennant,
finance.
Bah oui.
Non, juste une précision pour nos amis qui
et alors ce dock, donc, il suppose un câble USB du téléphone au dock, un câble USB de chargement en fait pour alimenter le dock lui-même, plus un câble HDMI donc pour aller se brancher à un écran HDMI, plus connecté dessus, donc soit en Bluetooth vers le téléphone, soit en USB vers le dock, un clavier et une souris. Et avec tout ça, on arrive donc à travailler sur le téléphone comme si c'était un PC et à trouver les applications compatibles de Continuum, donc les applications Office, Outlook, etc., sur un grand écran et donc travailler de façon confortable en utilisant uniquement le CPU et les capacités du téléphone et le stockage du téléphone.
Oui, en même temps, aujourd'hui, un smartphone, vu la patate que ça a, pour faire du Word et des ports d'affichage, heureusement, j'ai envie de dire que le téléphone est capable de faire ça avec son CPU. Quoi. C'est quoi ? C'est du quad-core, 8 cœurs, c'est CPU ? C'est du Snapdragon qui envoie du pâté, c'est...
Alors, chez HP, le processeur...
Voilà, c'est un quad-core. Quad-core à 2,15 GHz, c'est un Qualcomm 820-89-96. Bon, faut quand même espérer qu'avec ça, avec 4 Go de RAM, ils soient quand même capables de faire tourner un Word et une session terminal serveur. Quoi.
Donc déjà, ils ont fait un dock qui est un petit peu plus astucieux que le nôtre, qui est un dock sur lequel tu poses le téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre un câble entre le téléphone et le dock déjà. Donc ça supprime déjà un câble. Ce dock a plus d'extensions, plus de connectique que celui qu'on propose également, puisqu'il a, en plus, il a par exemple de l'Ethernet pour se connecter à un réseau directement. Et puis voilà. Donc pour le dock, déjà, il est pas mal du tout. En plus de ça, donc non seulement ils ont fait ce dock-là, mais ils ont fait un truc qui est super original.
Mais on en attend, là, Pascal. C'est quoi?
Quelle gestion du suspense.
Et ce truc super original, en fait, je recherche son nom parce que ça m'est sorti de la tête. Ça ressemble à un laptop, mais ce n'est pas un laptop. Alors, ça s'appelle exactement...
Un clavier.
Touk-touk.
Un Moltop.
Le Mobile Extender. Et ce Mobile Extender, c'est quoi? Ça ressemble à un laptop, mais en fait, c'est un clavier et un écran. Avec un trackpad devant le clavier, donc ça ressemble à un laptop très léger, très fin, puisque à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il n'y a rien. Il y a juste le clavier, l'écran, et aucune CPU, aucune mémoire, aucun... D'accord ? C'est simplement...
c'est génial. Il y a des mecs...
Je regarde les photos, hein, mais...
Ah non, mais moi, je suis devant la photo, et tu vois le truc, je veux dire, putain, il est classe ce PC avec l'écran éteint. Et je suis sûr qu'il y a des mecs, en fait, qui vont se barrer du boulot en mettant ça dans leur sac portable, et qui, quand ils arriveront dans le train, ils vont démarrer le machin, faire attends, il marche pas le PC.
en fait, si, parce que si j'ai bien compris le fonctionnement de ce truc là, donc ça peut fonctionner directement en connecté avec un câble USB-C au téléphone, et à ce moment là, ça fait exactement ce que fait le dock, mais avec l'écran et le clavier et le trackpad intégré, donc il n'y a qu'un câble à mettre, il y a une batterie. Dans le Mobile Extender, il y a une batterie. Et donc, ça peut durer au moins 24 heures. Ils disent au moins 24 heures de fonctionnement. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de consommation de batterie puisqu'il n'y a pas de CPU dans l'histoire. Quoi. C'est juste un écran qui va consommer. En plus de ça, on peut le connecter à la place du câble, on peut le connecter en Bluetooth. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as le téléphone dans ta poche et que tu ouvres le Mobile Extender... il va être immédiatement connecté en Bluetooth au téléphone, et tu vas avoir sur ton Mobile Extender, effectivement, l'écran de ton téléphone, et donc accès aux applications qui sont sur le téléphone. Donc c'est pas, si, c'est pas bête du tout ce que tu dis, tu vas dans le train, tu sors le truc, tu le déplies, et t'as un truc confortable pour travailler avec un vrai clavier, un vrai écran devant toi, beaucoup plus léger qu'un PC. Alors évidemment, ça suppose de transporter ce truc-là, mais dans le cas sans ça, il fallait quand même, si on veut utiliser le Continuum, transporter un clavier, une souris, et puis trouver à chaque endroit où on voit un écran HDMI pour se connecter dessus, quoi. Puis il fallait transporter également les câbles et le dock Continuum. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est original. Est-ce que ça prendra? Est-ce que ça marchera? Est-ce qu'il y aura vraiment un marché pour ça, un usage pour ça? Je ne sais pas.
Je pense qu'on doit reconnaître qu'il y a eu de l'idée quand même là-dedans.
Mais il y a de l'idée.
C'est vrai qu'après, tu te rimbales, en fait, on parle de Continuum pour dire maintenant tu n'as plus besoin d'un PC avec toi, mais tu te rimbales quand même là une coque de PC pour pouvoir faire son... Enfin, pour pouvoir travailler comme avec un PC. Donc ça, c'est rigolo dans l'approche, entre guillemets.
Ça fait un peu penser à Goldorak, en fait. Tu as le morceau. Non, mais tu vas le détacher avec le
gros véhicule. Ouais, c'est ça.
Hein, c'est ça, hein.
Mais je suis sûr qu'on va se poser autant de questions qu'on a pu se poser à Goldorak. C'est pourquoi Actarus, quand il descendait de la soucoupe directement dans Goldorak, il faisait deux demi-tours. Je veux dire, fondamentalement, ça apportait rien. Donc là, du coup, on peut se poser un peu la
c'est
question de se dire, et si je prends ce truc-là complet, finalement, quelle est la différence par rapport à avoir un PC portable et un smartphone? Là, t'en as qu'un seul, mais t'as quand même les deux équipements en termes de poids. Mais l'idée quand même enfin, il fallait quand même penser à avoir l'idée, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, on va essayer de trouver l'utilisation qui va avec, ouais.
On verra si ça prend. Et c'est pas fini en fait, parce qu'il y a autre chose. Là, au dos du téléphone, il y a des petits connecteurs, des petits contacts qui vont permettre à des OEM ou des partenaires qui font du matériel, quoi, de faire des extensions à base de matériel, des jaquettes, des trucs. Alors évidemment, Paul Surot se plaisante sur les jaquettes de type iPack dans son article. Ça nous rajeunit pas.
Non, iPack, c'était en 2001-2002, si je dis pas de bêtises. Les premiers compact pocket PC,
voilà.
Windows CE en voilà. Couleur, avec lesquels effectivement on avait une jaquette qui permettait d'avoir soit le Wi-Fi, soit d'avoir un peu plus de batterie.
On avait des jaquettes, et donc là il prévoit effectivement un marché des jaquettes de pour le HP Elite X3, qui fait déjà 6 pouces, donc qui est déjà conséquent comme machin, et avec une jaquette en plus, faut voir ce que ça donnera, quoi.
Ils peuvent faire également une valise à roulettes. Ça fait un très bon équipement pour après déplacer le faux PC, les câbles et puis effectivement les jaquettes.
Une version premium avec les bords dorés, bien sûr.
Exactement.
Voilà. Voilà ce que je voulais raconter de cette conf là que je trouvais intéressant.
Bon, Pascal, tu commandes quand ton HP Elite X3 ?
Non, non, j'ai pas les moyens,
avec
monsieur.
Avec toute la pub qu'il a fait, je pense que HP va bien lui en prêter un, quand même. Hein.
Ah, s'il m'en prête un, je vais bien l'essayer, mais sinon, non, j'ai autre chose comme téléphone en ce moment.
En plus, tant que sur autre chose, moi je pensais que tu allais nous parler des rumeurs, quand même.
Alors, vas-y.
Il y a des rumeurs, si je retrouve... ma page. Alors, les rumeurs, hein, et là on parle de rumeurs parce que c'est pas parce qu'on travaille chez Microsoft qu'on cautionne ce genre de rumeurs. Je trouve qu'elles sont assez rigolos. Rigolotes, pardon. D'après les rumeurs qui couraient en Chine, donc.
On s'autorise à penser dans.
Dans les milieux autorisés, exactement, hein. Arnaud. Que Microsoft travaillerait au portage de Windows 10 Mobile en fait sur deux smartphones qui sont assez cotés dans l'empire du milieu. Le premier, c'est le Xiaomi Mi 5 qui a été, si je ne dis pas de bêtises, annoncé justement également lors du Mobile Worldwide, lors de la NWC, donc la Mobile Worldwide Conference dont tu as parlé, Pascal. Donc c'est le Xiaomi Mi 5. C'est un très très beau smartphone sur Android, hein. Et effectivement, techniquement parlant, il pourrait complètement supporter un Windows 10 mobile. Donc il a entre 3 et 4 gigas de mémoire, il a également un Snapdragon en quad-core, il a entre 32 et 128 gigas de stockage, et il est lui sur un écran IPS LCD de 5,15 pouces. Donc c'est un téléphone qui est en tout cas qui a été très bien reçu par le public. Et dans les rumeurs, effectivement, des gens s'autorisent à penser que peut-être on pourrait porter Windows ou mettre Windows 10 Mobile sur ce Xiaomi. Et puis l'autre boîte, qui est alors une boîte, je ne crois pas de Chine, mais de Hong Kong, OnePlus. C'est bien ça?
Je crois qu'ils sont de Shenzhen.
Shenzhen.
Ah, Shenzhen, d'accord, ok. Donc, ouais, donc une autre, c'est des Chinois. Bon, Hong Kong, c'est la Chine, de toute façon. Ouais. Et donc là, le portage serait sur le OnePlus 2, qui est donc un portable, un smartphone que, bah, que vous connaissez bien.
Hein. Ah bon?
Oui. Et donc voilà.
Okay.
Et donc OnePlus a également un OnePlus 3 qui devrait arriver prochainement. Et donc dans les rumeurs, il y aurait peut-être potentiellement du Windows 10 Mobile dessus. Bon, ça reste que de la rumeur. Néanmoins, on trouve déjà des choses de Microsoft sur les OnePlus 2 et les OnePlus X actuels. Est-ce que vous savez ce que c'est, Arnaud et Pascal ?
Oui, mais je vais te laisser le dire parce que tu aimes bien ça.
Ah non, je t'en prie, vas-y, réponds à ma question.
C'est quelque chose que Microsoft a acheté, mais pour une bouchée de pain, je crois.
Oui, enfin, c'est une bouchée de pain, mais c'est du pain de luxe quand même. Hein.
C'est du pain avec du caviar dedans, peut-être.
Mmh. Exactement, c'est le petit pain au caviar. Donc, c'est un clavier.
Ouais.
Qui s'appelle. Donc, en fait, on a racheté. On
un
a
clavier virtuel. Hein.
Un clavier virtuel. Donc, vous savez que sur Android, comme sur iOS, on peut remplacer le clavier par défaut. Fourni par le constructeur par un autre clavier avec plus de fonctionnalités. Et donc, un des claviers les plus connus dans le monde Android, je crois, il était sur plus de 100 millions de devices. C'est une société qui s'appelait SwiftKey qui a fait donc un clavier. Clavier, entre guillemets, avec une certaine intelligence derrière. Alors, mettez des gros guillemets autour d'intelligence, mais l'idée, c'est de fonctionner par télémétrie et d'avoir des claviers, effectivement, qui s'adaptent facilement à l'usage, sur lequel on peut faire du swipe, donc glisser le doigt, faire de l'autocomplete. Les claviers sont personnalisables en différentes dispositions, différentes couleurs. Il y a une sorte de marketplace qui existe sur le SwiftKey. Et en fait, le SwiftKey est un clavier qui est nativement intégré sur les OnePlus 2 et OnePlus X. Et donc, la société qui est à l'origine de ce logiciel, en fait, a été rachetée par Microsoft, qui donc, du coup, va profiter d'un parc déjà installé, plus de la partie back-end, c'est-à-dire toute la télémétrie et le traitement des données en termes de machine learning par rapport à tout ce qui est saisi avec ces claviers. Voilà. Et un clavier n'allant pas sans l'autre. Hein. Du coup, on va dire une semaine et demie après, deux semaines tout cassées, on a un autre clavier de chez Microsoft qui a été annoncé pour Android, qui s'appelle le Microsoft Hub Keyboard, et qui est un clavier fait par nos équipes du garage, c'était exactement ça. Le garage étant cet endroit chez Microsoft où les gens peuvent faire des projets sur d'autres plateformes que la nôtre, le plus souvent. Et donc, ils ont publié dans le Google Play, qui est le marketplace de Google, d'Android, une application qui s'appelle le Hub Keyboard, et qui est un clavier avec des fonctionnalités un peu sympas. Donc, il y a des raccourcis, par exemple, pour aller faire des recherches sur OneDrive. On peut faire... On a une sorte de pile de stockage des copier-coller précédents. Ça peut aider Arnaud, par exemple, qui industrialise beaucoup certaines actions sur son téléphone. Donc on n'a pas qu'un seul copier-coller, mais on peut remonter sur plusieurs copier-coller en arrière. On a de la traduction en temps réel. On peut rapidement partager des données d'une fiche contact. Enfin voilà. Donc c'est un clavier qui est un peu plus évolué que le clavier de base. Et donc voilà, bon, actuellement le clavier est par contre disponible qu'en mode QWERTY, hein, parce que c'est des Américains qui l'ont fait, hein. Et ils n'avaient pas encore leur passeport, donc ils n'ont pas pu les tester tous les claviers du monde, mais a priori l'équipe du projet travaille sur le support d'autres langues, mais voilà. Donc en gros, quatre fonctionnalités inédites sur le clavier par rapport à la plupart des claviers qui existent: l'insertion rapide des derniers éléments copier-coller, la recherche des contacts, et puis, comme je l'ai dit...
Et de la traduction également, non ?
La traduction et la recherche dans OneDrive et dans SharePoint. Donc, ça se rattache quand même à certains éléments qu'on a chez nous. Voilà, donc ça s'appelle le Hub Keyboard. Et puis on a également un autre clavier chez Microsoft qui est le clavier entre guillemets qui vient de, qui est, enfin le clavier de Windows Mobile et qui a été porté sur sur iOS sur un clavier qui s'appelle le Flow, le Flow Keyboard.
Word Flow, je crois.
Word Flow, exactement. C'est Word Flow Keyboard qui est disponible sur iOS et qui permet d'avoir ce clavier qui est un quart circulaire et qu'on peut avoir juste sur l'angle d'un écran, ce qui est pratique quand on a des écrans de type phablette. Comme ça, le doigt qui tient le téléphone en fait peut se balader sur ce clavier qui fait un quart de cercle à peu près.
C'est quand on a des petits pouces.
Exactement, ou des gros téléphones, ça dépend. Donc Microsoft, on nous connaît beaucoup dans le matériel pour les claviers historiquement. Là, il semblerait qu'on soit parti pour bien nous connaître sur les claviers virtuels, parce qu'on en propose pour toutes les plateformes. Et que ben, je pense que la fusion de toutes les équipes, de tous ceux qui font ça, fait qu'on devrait avoir à la fin un clavier plus ou moins unifié qui soit multiplateforme avec pas mal de fonctionnalités. Donc voilà, ça c'est intéressant à voir et donc à tester.
Et ben voilà, on est donc sur le marché des claviers pour téléphone qui sont manifestement un truc. Ça doit être générationnel.
Quand tu rachètes 250 millions une boîte, oui, il doit y avoir un truc derrière. C'est pas que le clavier en tant que tel qui nous a intéressé.
C'est la tradition du clavier depuis des dizaines d'années. Microsoft, un des experts du clavier, donc il n'y a pas de raison que ça ne se projette pas dans l'époque du mobile.
Il n'y a pas de raison, effectivement.
Cool. Okay.
Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui.
C'est pas mal déjà là, non?
Je crois que c'est même carrément très bien. Arnaud, Stanislas, merci beaucoup.
Merci Pascal.
Merci à toi.
On se retrouve un autre jour et puis en attendant, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et puis à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.